Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Les Jeux de Paris ont commencé bien avant 2024 et se poursuivront bien au-delà de la fin des épreuves sportives. Mais l'héritage qu'ils vont léguer dans la vie des Parisiennes et des Parisiens sera immense. Et une fois les Jeux terminés, en Seine-Saint-Denis, parce que c'était pour nous très très important que la Seine-Saint-Denis soit le premier territoire de l'impact social et écologique de ces Jeux, eh bien 6000 habitants pourront vivre dans ce village olympique et paralympique.
C'était le 10 janvier dernier. Anne Hidalgo, maire de Paris, présente ses vœux aux élus et agents de la ville. Une occasion de revenir sur l'opportunité d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, des Jeux sobres, écologiques et qui laisseront un héritage indéniable bien au-delà du territoire de la capitale, selon elle. C'est le cas du village des athlètes, situé à cheval sur Saint-Ouen-Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Au cœur de l'été, il accueillera plusieurs milliers de sportifs et avant de devenir un nouveau quartier de 52 hectares, après les Jeux. À l'instar de la piscine olympique, symbole de l'héritage matériel promis par les organisateurs des JOP de Paris et qu'Emmanuel Macron inaugure ce jeudi, ou des infrastructures de transport collectif, bon nombre d'élus ont fait de ces JOP un levier d'investissement après des années de déficit chronique, notamment en Seine-Saint-Denis. À quelques semaines de leur ouverture, qu'en est-il réellement? Le département le plus pauvre de France peut-il rattraper son retard en termes d'équipement et d'emploi à la faveur de cet été olympique? Et cet enjeu d'héritage, justement, peut-on le penser seulement à l'aune des infrastructures quand des associations fustigent un nettoyage social de la capitale? Exilés, travailleurs du sexe, usagers de drogue, SDF, beaucoup seraient exfiltrés bien au-delà des frontières du périphérique, à Orléans par exemple, selon son maire, Serge Grouard, qui s'en est ému à l'antenne de France Bleu cette semaine. Que disent ces polémiques des questions nouvelles qui se posent à nos villes? Celle de l'acceptabilité sociale de ces grands événements et de la place des citoyens et usagers dans ce qui est présenté comme une grande fête populaire. Et en duplex et en direct avec nous depuis Grenoble, bonjour Alexandre Faure.
Bonjour.
Vous êtes docteur en études urbaines de l'EHESS, chercheur associé à la Fondation France-Japon de l'EHESS. Alors, semaine prochaine, donc, c'est la semaine olympique et paralympique à l'école. Par ailleurs, jeudi 4 avril, Emmanuel Macron inaugure le centre aquatique olympique à Saint-Denis. On parlera encore d'héritage de ces Jeux. Cette rhétorique de l'héritage, pourquoi elle est aussi centrale selon vous?
Alors l'héritage au sens des Jeux Olympiques est quelque chose d'assez important depuis au moins les années 80 ou 90, quand on a cherché à savoir quelle pouvait finalement être l'utilité des Jeux pour les villes. Et quand il y a aussi eu des travaux de plus en plus nombreux, des travaux notamment scientifiques, pour comprendre comment les Jeux modifiaient ou non les villes qui accueillaient l'événement.
Et donc, finalement, ces Jeux modifient profondément nos villes en termes d'équipement, d'infrastructures, notamment de transport, et c'est ça qui est en train de se passer aussi à Paris?
Alors, il y a eu des villes dans lesquelles les Jeux ont une influence très forte sur la ville, sur les transports, sur l'organisation du tissu urbain. Dans le cas parisien, c'est un petit peu différent puisque finalement, les Jeux apportent peu de nouvelles constructions. On construit, comme vous l'avez dit dans l'introduction, le village olympique qui sera Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, le village des médias à Duny et le centre aquatique olympique. On a des rénovations de piscines dans quelques villes de banlieue parisienne et à Paris. Mais finalement, les constructions sont très limitées si l'on compare aux Jeux qui ont eu lieu dans les décennies précédentes, et notamment avec l'exemple phare de Barcelone en 1992.
Oui, et on pense aussi à la Grèce, on a pu penser aussi à Pékin, qui a conduit à beaucoup de polémiques sur le prix, d'une part, de ces Jeux, et sur ce qu'on a pu faire de ces équipements pharaoniques qui, parfois, ont mis à mal les économies de ces villes d'accueil. Est-ce à dire que aujourd'hui, les JOP ne changent plus la ville comme elles pouvaient les changer avant?
Oui, exactement. En tout cas, pour le cas parisien, c'est très franc. Il n'y a plus la même ambition de transformation urbaine, puisque la volonté était plutôt d'être sobre sur les plans environnementaux et budgétaires, donc de construire le moins possible. On s'éloigne très fortement des candidatures des années 2000 et 2010, où on avait parfois des programmes d'investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros, en fonction de la devise, qui étaient prévus par les différentes villes candidates. Paris a été, pour cette fois-ci, beaucoup plus léger sur ce plan-là, et ça, c'est un tournant. Et là, on s'éloigne de ce modèle olympique très dépensier, très constructeur, très transformateur des espaces urbains et naturels quand on prend plutôt les Jeux d'hiver. Donc là, il y a une modification avec 2024.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire aussi en creux, c'est que cette notion d'héritage et de transformation, elle n'est peut-être presque plus légitime à utiliser au vu du peu de transformations qui vont être visibles dans la métropole parisienne.
Alors, je ne sais pas si elle est plus légitime. Il y a des villes qui utilisent vraiment les Jeux comme un levier. Los Angeles, par exemple, construit un peu plus que Paris. On peut utiliser les événements ou les grands événements comme des leviers de construction. Et il y a des pays dans lesquels on l'entend, où il y a des contextes politiques dans lesquels on l'entend. Dans le cas parisien, et d'ailleurs, les candidatures de 2008 et 2012 avaient été un petit peu sur le même niveau pour Paris, donc deux candidatures ratées. On avait des programmes d'investissement qui étaient moins importants que les autres villes candidates. Je dirais que c'est plutôt, il y a eu un changement de contexte fondamental dans le cas parisien. Et la volonté était aussi de montrer que Paris pouvait, sans avoir à investir, parce qu'elle possédait l'ensemble des atouts et des éléments nécessaires pour pouvoir être une ville mondiale, accueillir les Jeux sans être transformée. J'ai un collègue américain qui m'a dit un jour que la candidature parisienne était une candidature hautaine parce que Paris disait vouloir transformer les Jeux et n'avait pas besoin des Jeux pour être transformé, ce qui va un peu à l'encontre des récits d'habitude. Donc si on considère cette vision un peu hautaine des Jeux, d'une certaine manière, je dirais pourquoi pas, c'est un pari audacieux et c'est mieux que de dépenser des dizaines de milliards d'euros pour la construction de nouvelles infrastructures. Mais ça signifie aussi que l'influence des Jeux de Paris pour 2024 est faible sur la ville, même s'il est existant, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'ont pu être les Jeux précédents.
Mais on entendait à l'instant Anne Hidalgo parler justement de cet héritage écologique et social, notamment pour la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous estimez qu'il y aura un effet de rattrapage pour ce département, le plus pauvre de France, en termes d'équipement, quand on sait, et ça a été pour le coup travailler et objectiver dans plusieurs rapports, notamment parlementaires, que ce département est sous-doté?
Alors, il y a deux choses. Déjà, en tant que chercheur, j'ai un peu de mal à voir en quoi il pourrait y avoir un héritage écologique pour les Jeux. Il y a des chercheurs, notamment suisses, Sven Daniel Wolf, Martin Müller, qui ont démontré que depuis 92, il y a une dégradation de l'héritage sur le plan environnemental de toutes les éditions. Dans le cas parisien, en fait, ce qui va sauver d'une certaine manière l'empreinte carbone de Paris 2024, c'est à nouveau le fait de pas construire, parce que on économise, on a une faible empreinte quand on construit peu. Il y a effectivement la rénovation d'une ou deux parcelles autour du parc Georges Valbon, avec une extension du parc, une amélioration des espaces verts, et ça c'est vraiment très positif, il faut le mettre sur le compte des Jeux. Ensuite, sur l'héritage de rattrapage envers la Seine-Saint-Denis, comme l'indique le mot rattrapage, il faudrait que les Jeux induisent une augmentation significative des équipements à disposition des populations, notamment des équipements sportifs, et en dehors de la construction de la nouvelle piscine olympique qui est en face du Stade de France et de la rénovation de quelques équipements sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, on ne peut pas parler d'un rattrapage fondamental sur le plan à la fois du sport, mais aussi des équipements à disposition de la population. Et là, j'ai du mal avec le mot rattrapage. En tant que chercheur, en tout cas, je vois pas quelle est sa portée, en dehors de dire que les Jeux apportent un investissement pour la Seine-Saint-Denis, c'est certain, mais ça ne produit pas en soi un mouvement de rattrapage au niveau qu'il devrait être vu la faiblesse des équipements en Seine-Saint-Denis.
Donc là-dedans, ça veut dire que cette notion d'héritage qui est quand même régulièrement mise en avant par les élus, par le comité d'organisation aussi, selon vous, c'est quoi? On est dans des effets de manche et de communication?
Non, pas du tout. Enfin, on va pas dire on a les Jeux et on n'aura aucun bénéfice. On va mettre en récit le fait que les Jeux apportent des bénéfices. Moi, ce que je mets en doute, c'est un peu l'emphase, le fait qu'il y aurait beaucoup trop d'attentes sur les Jeux. Et d'une certaine manière, comme je l'ai déjà rappelé à cette antenne, les Jeux n'ont pas vocation en soi à avoir une influence sociale. C'est la ville hôte, c'est la ville candidate qui va donner aux Jeux Olympiques un récit qui inclut un impact social ou un impact environnemental. fondamentale. Les jeux, initialement, le CIO se fiche du social, pour être tout à fait clair. Par contre, effectivement, dans l'action de la, des différents acteurs qui sont au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, on a une série d'actions qui portent vers les populations de Seine-Saint-Denis, entre autres, et pas seulement, que ça soit pour améliorer la pratique sportive, la pratique de l'éducation physique, pour améliorer l'accès aux différents équipements publics. Et il y a évidemment une influence des jeux sur ces politiques-là. Cependant, elle reste très faible par rapport au gap, par rapport au fossé qu'il a besoin de combler aujourd'hui pour que les populations de ces territoires aient réellement accès aux mêmes services, aux mêmes équipements que le reste de la population. C'est ce que je veux dire. Donc, bien que les jeux puissent avoir une influence positive, et c'est certain qu'ils ont une influence positive, par exemple, sur l'accès au sport, puisqu'on y construit une piscine, ça ne représente pas le comblement nécessaire pour atteindre des niveaux normaux. Je ne sais pas quel est le niveau normal, mais pardon, pour atteindre des niveaux décents d'accès à des équipements pour les populations locales.
Pour atteindre le droit commun. Vous parliez à l'instant d'héritage social, justement, Alexandre Faure. Depuis plusieurs mois, un collectif de plusieurs associations plaide pour un héritage positif de ces JOP, notamment dans la lutte contre l'exclusion. Selon Le Revers de la Médaille, c'est le nom de ce collectif, ces jeux sont le prétexte d'un véritable nettoyage social des villes olympiques. Il y a quelques jours, ils menaient une action sur les statues, entre autres, du musée d'Orsay. Reportage Clara Menet.
Hop. Alors, il faut qu'on mette les anneaux dans l'ordre. Bleu ici, rouge là. Bleu, noir,
allez,
rouge.
Les anneaux, là.
Le bleu ici,
on y va.
Le noir au milieu, le rouge à droite.
Tiens,
vas-y. On y va. Ici, il nous faut le jaune.
Ouais.
Voilà, le jaune ici et le vert là. Regardez, ça va être magnifique. Okay. Tiens, décale-toi un peu ici.
Ouais.
Tac, voilà.
Ah, on est pas mal là.
On est pas mal. Hop. Mesdames et messieurs, bonjour. On est le collectif Le Revers de la Médaille. On alerte sur les conséquences sociales des Jeux Olympiques. Donc il y a une grande fête populaire qui arrive à Paris cet été. Ça va être formidable pour 15 millions de touristes. Mais il faut savoir qu'à chaque occurrence de ces grands événements sportifs, les personnes à la rue, les sans-abri, les exilés, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, ils sont chassés par les forces de l'ordre, ils sont dégagés de la ville. Donc on est un collectif de 87 assos. On est tous les jours sur le terrain et on voit des effets de nettoyage social. Il y a des bidonvilles qui se font raser, il y a des squats qui se font expulser. On voudrait être fiers de nos jeux, on voudrait être fiers de nos politiques sociales envers les plus fragiles. Donc voilà, on est le collectif Le Revers de la Médaille. On était venu animer un peu les statues du musée d'Orsay. On vous remercie, bonne journée.
Vous avez assisté un peu à l'action là, je peux vous demander vos impressions?
Dans une action assez claire, enfin, moi je suis d'accord. Effectivement, on discutait que c'est des événements sportifs qui prennent peut-être beaucoup, beaucoup de place. Alors le sport c'est important, hein, c'est pas ce qu'on remet en question, mais effectivement tous les à côté, l'argent, la dimension écologique et là, je pense la dimension sociale aussi, c'est quelque chose qui interroge en tout cas moi, ça m'interroge quand même beaucoup.
De la médaille, le revers de la médaille.
Donc à l'OIP, on vient de rejoindre le collectif parce qu'on constate que le dispositif sécuritaire qui est en train de se mettre en place à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques risque de conduire à un déferlement d'incarcération.
Prune Missoff, responsable du plaidoyer à l'Observatoire international des prisons.
On a aujourd'hui un garde des Sceaux qui se réjouit quand on ouvre des nouvelles prisons, que ça arrive à point nommé à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques. On va multiplier les patrouilles de police par 5 dans les transports en commun. On va avoir une augmentation des audiences de comparution immédiate dans toutes les villes qui accueillent les Jeux Olympiques et Paralympiques. Comparution immédiate, ça veut dire 8 fois plus de risque d'être condamné à de la prison ferme et ça vise principalement les populations précaires. En parallèle au Parlement, on vote des lois pour punir de prison des nouveaux délits comme mendier régulièrement dans les transports en commun. Et tout ça, ça se fait dans un moment qui est déjà explosif dans les prisons françaises. Donc maintenant la question, c'est est-ce que la France veut vraiment marquer les esprits et qu'on se souvienne d'elle parce qu'elle aura remporté la médaille de la surincarcération, ou est-ce qu'on n'essaye pas vraiment de faire de l'inclusion ?
Mesdames et messieurs, une file de personnes ici et une file en face, vite, les militants. Allez, du collectif en pop.
Je m'appelle Paul Alozi, je suis coordinateur à Médecins du Monde et porte-parole du Revers de la Médaille. Ça fait 6 mois qu'on consulte toutes les autorités. À ce jour, on n'a aucun plan concret de prise en charge des personnes en situation de précarité. Moi, je suis allé à Vancouver, donc on a traversé l'Atlantique pour aller rencontrer des personnes qui ont milité et qui étaient à la rue aussi en 2010 pendant les Jeux. Donc la police s'est mise à venir voir les personnes là-bas, à leur donner un ticket de bus en leur disant « si tu quittes la ville, on te file 50, 100 dollars ». Pour ceux qui restaient, ils se sont mis à leur mettre des amendes. Et donc petit à petit, il y a un maximum de gens qui se sont fait placer en prison, des peines de quelques jours, de quelques semaines, pour traverser en dehors des clous, pour uriner en public. Ça, c'est arrivé pendant les Jeux Olympiques, alors qu'on leur avait promis, j'ai lu les documents de la mairie de Vancouver à l'époque, des Jeux inclusifs et un héritage social. Donc nous, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'on mette en place des solutions, des moyens en plus pour les services médico-sociaux. Si on fait tout ça, on peut avoir une belle fête populaire dont tout le monde pourra profiter. Par contre, si ça se met pas en place, nous, l'image des Jeux, à un moment, ça va 5 minutes. Il y a des gens dans la rue à Paris qui souffrent. On est la 7e puissance mondiale. C'est un événement à 9 milliards. On pourrait faire beaucoup mieux et pour l'instant, on n'est pas en chemin pour le faire.
Voilà pour cette action du collectif Le Revers de la Médaille. Et pour être complet, face à ces accusations de nettoyage social, la préfecture de Paris et d'Île-de-France, citée dans les colonnes des Échos, réfute cette idée et assure que, JO ou pas, les opérations d'expulsion auraient été les mêmes. Contestant donc du coup ces critiques, les services de l'État rappellent que chaque nuit, 120 000 personnes sont hébergées en Île-de-France, tout dispositif confondu, soit une hausse de 110% en 10 ans du budget mis sur l'hébergement d'urgence. C'est notre rôle de trouver des solutions, plaide-t-on du côté de l'État. Alexandre Faure, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'on attend trop des Jeux, finalement? Est-ce qu'ils ne sont pas là pour réparer les maux du monde, surtout quand on entend des JO populaires, inclusifs? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait. Et je trouve que beaucoup de choses ont été dites et très bien dites dans ce reportage, notamment quand les militants indiquent qu'ils souhaitent être fiers des Jeux comme ils souhaitent être fiers des politiques sociales et que la préfecture réponde, quel que soit qu'on ait eu les Jeux ou non, on aurait quand même effectué des expulsions. Donc voilà, oui, on attend trop des Jeux. On accole aux Jeux un récit qui est un petit peu faux, qui est celui un récit de politique sociale qui n'existe pas. Et encore une fois, je le répète, le Comité international olympique est fondé sur des valeurs individualistes, des valeurs de liberté, mais certainement pas des valeurs sociales. C'est-à-dire que le CIO n'a pas du tout vocation, par exemple, à aller soutenir socialement des athlètes qui seraient plus pauvres que d'autres athlètes plus riches pour les aider, par exemple, à avoir accès au sport. C'est-à-dire que le CIO ne fait qu'enregistrer des athlètes qui réussissent dans les épreuves. Donc ça, c'est un point essentiel. Et évidemment... Je dirais que les Jeux ne sont que le reflet des politiques qui existent et il n'y a pas pour les Jeux une nouvelle politique qui serait plus violente qu'une autre. Il y a peut-être une accentuation des politiques existantes et notamment certainement des politiques d'expulsion qu'on a déjà vues à Londres, qu'on a vues à Vancouver, qu'on a vues à Rio, qu'on a vues à Pékin. Dans toutes les villes qui obtiennent les Jeux, il y a une tentative de nettoyage social pour faire place nette. Et là, j'en reviens à la complexité des acteurs parce que c'est pas vraiment les Jeux qui décident ça. C'est-à-dire que le Comité international olympique ne demande pas aux autorités françaises de dégager les personnes qui sont à la rue ou de faire du nettoyage social dans les rues. Donc ça, c'est vraiment une décision politique.
C'est une décision gouvernementale. Voilà. Alors justement, parce que on est quand même sur un territoire avec une multiplicité d'acteurs. Anne Hidalgo nous parle de jeux populaires, inclusifs. C'est le cas aussi des élus de Seine-Saint-Denis. De l'autre côté, vous avez le COJO. Vous nous dites que ce nettoyage social, on l'a vu s'opérer dans la plupart des capitales qui ont pu, enfin, ou des villes qui ont pu accueillir ces Jeux. Donc là-dedans, c'est qui? C'est la préfecture de police de Paris? C'est le ministère de l'Intérieur? C'est l'État?
C'est tous ces acteurs. C'est la police nationale, les compagnies de CRS et la gendarmerie qui effectuent ces expulsions. Et voilà, ce ne sont pas les autres autorités. Donc oui, c'est principalement des décisions gouvernementales et préfectorales.
Ouais, je rappelle, Serge Grouard, le maire ex-LR d'Orléans dans le Loiret, a dénoncé lundi 25 mars auprès de France Bleu Orléans, l'arrivée en catimini de plusieurs centaines de personnes sans abri dans sa ville en provenant de Paris. Il a demandé des explications au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et il assure depuis mai 2023, toutes les trois semaines, il y a un car qui est affrété et qui embarque des personnes migrantes en situation irrégulière et sans domicile fixe pour les amener à Orléans. Pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, nettoyer socialement quand on est une ville qui accueille ces Jeux? Est-ce que c'est parce qu'on va donner à voir un récit de sa ville au monde?
Oui, exactement. Je pense que les acteurs qui procèdent à ces expulsions sont persuadés que l'on souhaite avoir que les touristes ou que les personnes qui viennent de l'extérieur, les étrangers qui vont venir visiter la ville ou même les Français qui vont venir visiter la ville, ont envie d'avoir une ville qui soit clean, qui soit, et j'utilise ce mot volontairement, cet anglicisme, une ville nettoyée, une ville qui soit facile d'accès, où on ne soit pas choqué par la pauvreté et par les inégalités qui traversent notre société. En fait, on essaye de gommer les échecs de nos politiques sociales qui tentent qui n'arrivent pas à diminuer les inégalités suffisamment pour qu'il n'y ait pas au quotidien la pauvreté qui ressurgisse devant nous. Et ça, c'est certainement ce récit de l'attractivité, ce récit un petit peu aujourd'hui, ce modèle singapourien qui voudrait qu'on souhaite avoir des villes lissées et polissées. Et c'est ça qui entraîne ces acteurs à faire ces politiques publiques. Mais encore une fois, il n'y a rien qui ne les oblige à le faire. Donc c'est vraiment, là, on est face à un choix politique fort, qui est celui d'aller faire la répression, et non pas d'ailleurs des politiques sociales, et on le voit depuis des années, je veux dire l'abbé Pierre, les Don Quichotte, des dizaines et des dizaines de mouvements ont montré en France les politiques, la faiblesse des politiques sociales, ou parfois leur absence, même si on est un pays qui se vante d'avoir un modèle social extraordinaire, c'est pas nouveau, les Jeux, c'est simplement une nouvelle occasion de pouvoir activer un levier pour aller sur ces choix-là, mais ces choix sont bien des choix politiques. Et ce n'est pas les JO qui les oblige.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Alors les contestations, les mobilisations citoyennes qui s'expriment contre les conditions d'organisation des JOP de Paris font écho à d'autres mobilisations plus importantes chez nos voisins ces dernières années. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Vous avez interrogé le chercheur Hugo Bourbière pour comprendre ce que ces mouvements révèlent dans notre vie démocratique.
Oui Nora, il faut rappeler d'un mot que l'attribution des Jeux à Paris a eu lieu en 2017 après le retrait des candidatures de trois villes concurrentes, Hambourg, Rome et Budapest. Trois retraits après autant de mobilisation citoyenne. Hugo Bourbière revient sur ces processus qui révèlent chacun un aspect différent d'une contestation globale contre les grands événements sportifs.
J'aime à dire que finalement la contestation des Jeux Olympiques, c'est un enjeu mondialement reconnu, mais ça reste un enjeu de politique locale en fait. Donc le cas de Budapest par exemple, c'est une contestation ascendante qui émane d'un mouvement étudiant à la base qui s'appelle le mouvement Momentum, qui a donné lieu à un parti politique à partir de 2017 et qui a clairement choisi, et il l'explicite presque en ces termes, de se porter sur la question des Jeux Olympiques pour l'attrait médiatique que cela comportait. Hambourg, c'est en effet plutôt un référendum. Et là, en l'occurrence, les résultats sont extrêmement serrés, puisque de mémoire, on est à 49,6% pour la candidature. Mais les coalitions, en fait, ont extrêmement bien fonctionné au niveau local, notamment avec des relais politiques, probablement manquent ou ont manqué aux contestataires français. Et puis le dernier cas, c'est le cas italien, donc le cas de Rome, où c'est suite à un changement de mairie, donc c'est la démocratie représentative là qui parle, c'est Virginia Raggi qui arrive au pouvoir et qui avait mis dans sa candidature le retrait de la candidature et en avait fait un argument de campagne en fait avéré, notamment sur l'histoire ou la mémoire collective des Jeux de Rome 1960 qui était considéré par l'opinion publique locale comme des Jeux relativement dispendieux avec des infrastructures qui ont coûté très cher, qui n'ont pas été totalement utilisés. Donc ces trois exemples-là, et il y en a bien d'autres, en effet, montrent finalement les logiques, tantôt démocratie représentative, tantôt logique plutôt ascendante, tantôt démocratie directe avec le référendum, qui vont permettre aux contestataires de faire entendre leur voix.
Une contestation globale donc, mais qui se heurte tout de même à la logique même des Jeux Olympiques, dont ni l'attribution ni l'organisation ne sont démocratiques. J'ai demandé donc à Hugo Bourbière s'il n'y avait pas une limite à ces mouvements citoyens, quel que soit leur motif de revendication.
On voit une contestation qui est très écologiste, très féministe, qui en fait renvoie ainsi à des argumentaires très locaux sur des aménagements très précis et qui de fait dépasse en fait le cadre de l'événement pour porter une contestation sociale dans l'espace public de manière plus large et ce qui participe d'une certaine manière à la vitalité démocratique. Donc de ce point de vue, l'événement sportif, en effet, il est antidémocratique en ce qu'il ne se soumet pas à la représentation nationale, mais finalement, il génère une forme de discussion, de débat dans l'espace politique, qui est toujours bienvenu pour notre vitalité.
Voilà, c'était le chercheur Hugo Bourbière, maître de conférences en sociologie et management du sport à l'université de Rennes 2. Alors Alexandre Faure, quelles incidences et quelles conséquences ont eu ces contestations globales, on l'entendait, hein, sur l'organisation des Jeux Olympiques? Est-ce que le CIO a dû prendre tous ces éléments en compte?
Oui, tout à fait. Le CIO s'est bien rendu compte qu'il y avait une nouvelle perte d'attractivité du système olympique et que les villes préféraient abandonner les candidatures plutôt que de les mener jusqu'au bout, ce qui a amené en 2017 à un duo Paris-Los Angeles qui a réussi à négocier une double attribution pour 2024 et 2028, ce qui était une première. Et le CIO a ensuite, en 2021, acté la fin du système de candidature. Donc on ne passera plus par cette compétition qui était plus ou moins libre entre les villes qui souhaitaient avoir les Jeux. Aujourd'hui, le CIO a décidé de mettre en place un processus de dialogue bilatéral, de dialogue ciblé, on peut utiliser plusieurs mots, envers une ville que le CIO souhaite, à qui le CIO souhaite proposer d'organiser les Jeux. Ça sera Brisbane en 2032 et ça modifie fondamentalement l'organisation des Jeux, mais aussi l'organisation de la compétition pour obtenir les Jeux.
Mais là-dedans, ça pose aussi la question de cette notion d'acceptabilité sociale quand on voit l'enjeu démocratique que cela pose. C'est une notion assez contemporaine, évidemment, mais ces événements, ces méga-événements aujourd'hui font largement débat. Vous le disiez vous-même, il y a de moins en moins d'attractivité. Est-ce à dire qu'il faut s'attendre à ce que les Jeux olympiques et paralympiques n'existent plus?
Alors, comme toute institution, elle fait face à des critiques, elle fait face les Jeux et le CIO, d'ailleurs pour des raisons différentes, hein, peuvent faire face à des critiques, et je pense que le sport professionnel lui aussi, donc vous avez toute une série d'éléments qui sont critiqués dans les Jeux, mais de là à y voir la fin du système olympique ou la fin de cet événement, c'est aller trop vite en besogne. Je rappellerai tout de même que c'est une institution multimillénaire, puisque les Jeux, en tout cas dans l'imaginaire, hein, de notre société, renvoie à une institution antique qui a démarré plusieurs siècles avant notre ère, et elle est certainement l'une des rares institutions à être encore aujourd'hui invoquée pour organiser, pour avoir une action sur le présent, et qui a plus de 2500 ans. Il y a quasiment aucune autre institution qui a comme ça traversé les âges, les civilisations et les millénaires pour se retrouver devant nous aujourd'hui, que l'on invoque, que l'on convoque, que l'on organise. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, et le système olympique, même récent, même si l'on prend depuis sa refondation en 1894 à la Sorbonne à Paris, a toujours réussi à rebondir, à trouver une faille, à trouver une nouvelle manière d'exister, de se transformer, de se réformer pour être perpétué. Et donc c'est une institution sur laquelle j'aurais beaucoup de mal à vous dire qu'elle pourrait disparaître un jour, vu sa capacité à survivre aux différents défis auxquels elle fait face.
Mais elle survivra donc, quitte à assumer cette dimension antidémocratique, non transparente, puisque, comme vous le disiez, on n'est plus dans des logiques de candidature de ville, et c'est pas grave.
C'est pas grave, je sais pas si c'est grave ou non, mais en tout cas c'est comme ça. Mais rien n'empêche le CIO de nous inventer une nouvelle astuce pour survivre encore une fois à cette crise. Et moi, je ne suis pas sûr que le système de candidature ciblée dure plusieurs décennies. Ça se trouve, le CIO trouvera une manière peut-être de tourner entre les villes historiques de l'olympisme, d'organiser les Jeux dans plusieurs villes en même temps. Mmh. Et puis, de toute façon, va arriver à un moment donné la question des Jeux olympiques d'hiver pour des raisons environnementales, il va falloir réformer, refonder, trouver encore une manière de rebondir. Et ça, voilà, les JO pourraient prendre des habits qu'on n'imagine pas aujourd'hui.
Ouais, sachant que les JO d'hiver d'Asie ont été confiés à l'Arabie Saoudite, hein, si je me souviens bien.
Tout à fait, ouais. Après avoir confié ceux d'hiver globaux à Pékin, alors qu'il n'y a aucune montagne enneigée autour de la capitale chinoise.
Merci beaucoup Alexandre Faure d'avoir été avec nous. Cette émission est terminée, mais vous pouvez réécouter celle-ci et toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé, à June Loper qui l'a réalisé, à la technique. À Paris, c'était Dimitri Paz. Et à Grenoble, Vincent Elie, merci à eux. Merci à vous, Alexandre Faure, encore une fois. Et à bientôt.